Vous êtes à l'écoute du 95.10 FM de la Voix du Béarn et nous retrouvons tout de suite notre émission Astronomie. À la découverte du ciel, une émission proposée et présentée par Alain sur la Voix du Béarn 95.10.
À la découverte du ciel, à la découverte de l'univers, les amis, bonjour, oui, c'est Alain. Aujourd'hui, notre émission d'astronomie va être consacrée à un anniversaire. Et pour cela, je vous emmène faire un petit voyage. Où ça? Mais dans le passé, bien sûr. Mais avant de partir, on va quand même parler de l'actualité. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Oumuamua. Oumuamua. Non, rassurez-vous, je ne bégaye pas. Oumuamua, c'est le nom d'un astéroïde qui a été découvert le 18 octobre. Mais alors, un astéroïde d'un genre nouveau, c'est du jamais vu. Oui, parce que les astéroïdes qu'on connaît jusqu'à présent, ils orbitent tous autour du Soleil. Eh bien, pas lui, pas lui. Il a été observé par les plus grands télescopes au Chili, à Hawaï, et on a pu déterminer sa trajectoire. Il semblerait qu'il ait été éjecté de son système solaire à lui, qui serait une étoile de la constellation de la Lyre, peut-être Vega. Il est passé à 30 millions de kilomètres du Soleil et maintenant il s'éloigne de nous. Il y a autre chose aussi qui intrigue singulièrement les astronomes, c'est sa forme. Un espèce de cigare qui fait 400 mètres de long sur 50 mètres de diamètre. On se demande comment Oumuamua a bien pu se former. Énigme. Et puis, sa surface est assez rouge, ce qui pourrait laisser à penser qu'il y a présence là de matière organique. En tout cas, Oumuamua, c'est encore un objet bien mystérieux. Affaire à suivre, donc. Et maintenant qu'on a trouvé un objet interstellaire, il y a de fortes chances pour qu'on en trouve quelques autres, astéroïdes ou comètes, qui seraient aussi orphelines de leur étoile. Autre actualité. Messieurs Weiss, Barish et Thorn. Ce sont des théoriciens et instrumentalistes qui ont permis la détection des ondes gravitationnelles. Je vous le dis parce qu'ils viennent de recevoir le prix Nobel de physique. En parlant d'ondes gravitationnelles, les trois premières détections d'ondes gravitationnelles résultaient de la fusion de deux trous noirs. La quatrième détection, qui vient d'être enregistrée, elle est différente. Elle résulte de la fusion de deux étoiles à neutrons. Et ça change tout. Ça change tout parce que, contrairement aux trous noirs qui n'émettent aucune lumière en fusionnant, les étoiles à neutrons, quand elles fusionnent, ça se passe dans un espèce de feu d'artifice cosmique avec émission d'énormément de lumière, lumière qui a été observée par plus de 70 télescopes, soit terrestres, soit dans l'espace, et qu'on va pouvoir maintenant analyser pour obtenir probablement beaucoup d'informations complémentaires. Alors, je vous rappelle qu'une étoile à neutrons, c'est ce qui reste d'une étoile qui au départ était un peu plus grosse que le Soleil, qui est arrivé en fin de vie, qui expulse, elle explose en expulsant ses couches externes, et le cœur de l'étoile s'effondre pour donner un astre qui est très petit, entre 10 et 20 km de diamètre, et surtout très très dense. Oui, parce qu'une cuillère à café d'étoiles à neutrons, ça pèse, mais ça pèse des centaines de millions de tonnes. Des centaines de millions de tonnes. Autre chose encore. Xavier Bonfils, un astronome français, vient d'annoncer la découverte d'une planète à peine plus grosse que la Terre. Cette découverte a été faite grâce au télescope de 3,60 m de l'observatoire de La Silla au Chili. Cette planète fait 1,2 fois la masse de la Terre. Elle orbite autour d'une naine rouge. Une naine rouge, c'est une étoile plus petite et moins chaude que le Soleil, qui s'appelle Ross 128, cette naine rouge. Elle n'est pas bien loin, elle est à 11 années-lumière. C'est presque à côté. Elle est située dans la constellation de la Vierge, pas très loin de Spica. Alors, on ne sait pas encore s'il peut y avoir de l'eau liquide à la surface de cette planète. Et puis, en 2017, il y a aussi des anniversaires. On commence par 1957. Le 4 octobre, le Spoutnik. Eh oui, le Spoutnik, le premier satellite artificiel lancé par l'URSS, le bébé lune, comme disait Albert Ducrot. C'était une petite sphère de 60 cm qui faisait bip-bip, en faisant le tour de la Terre en 96 minutes. 1957, toujours, le 3 novembre, c'est Laïka, la malheureuse petite chienne qui a été mise en orbite et qui va mourir après 7 heures de vol. 1967, 50 ans, le 3 novembre, Apollo 4, c'est le premier décollage d'une fusée Saturne V. La fusée Saturne V, c'est la grosse fusée de la NASA qui va permettre aux astronomes d'aller marcher sur la Lune. 3000 tonnes au décollage. Actuellement, il n'y a pas l'équivalent. 10 ans de plus, 1977, 40 ans. Ça fait 40 ans que les sondes Voyageurs 1 et 2 sont dans l'espace. Voyageur 1 est à 16 années-lumière de la Terre, 160 000 milliards de kilomètres. Voyageur 2 est à 19 années-lumière de la Terre, 190 000 milliards de kilomètres. Elles ont franchi la limite du système solaire. Et puis encore, la nuit du 13 au 14 décembre, si le ciel est clair, observez les Géminides. Ce sont des étoiles filantes qui proviennent de la constellation des Gémeaux. À ce moment-là, la Terre traverse des poussières qui sont laissées par une comète, une ancienne comète qui s'appelle Phaéton. On attend jusqu'à 2 Géminides par minute. Observez. Voilà pour l'actualité aujourd'hui. Allez. Maintenant, on part pour notre petit voyage dans le passé. On arrive en 1667, 350 ans. Et même un peu avant, on arrive en 1665, Louis XIV, Colbert, Vauban. 1665, il y a un astronome français, Adrien Auzout, qui découvre une comète. Alors il décrit ses observations dans un petit bouquin qu'il envoie à Louis XIV. Et dans la préface, il lui demande, alors je cite, d'ordonner quelques lieux pour faire toutes sortes d'observations célestes. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce que c'est l'époque où les royautés en Europe rivalisent entre elles afin d'attirer toujours plus d'artistes, d'écrivains, de philosophes et de savants. Question de prestige. Alors l'ami Colbert, qui a l'oreille de Louis XIV, soutient la proposition d'Adrien Auzout. Et il propose à Louis XIV d'édifier un bâtiment consacré à tous les aspects de la science, avec des labos, des bureaux, des salles de réunion, des bibliothèques et des terrasses pour les observations astronomiques. Et dans la foulée, c'est la création de l'Académie royale des sciences en 1666, avec l'arrivée d'ailleurs de Christian Huygens, le mathématicien et astronome hollandais qui a découvert Titan, le satellite de Saturne, le petit module qui s'était posé sur Titan s'appelait Huygens, en hommage à Christian Huygens. Donc, 1666, création de l'Académie royale des sciences, et dans la foulée, création aussi de l'Observatoire de Paris, en 1667, Observatoire de Paris qui fête donc cette année ses 350 ans. Déjà, il faut trouver un endroit. On pense à Montmartre. Montmartre, c'est bien parce que c'est sur une colline. C'est au nord de Paris. Le problème, c'est que les astronomes aiment bien observer côté sud, parce que c'est là qu'il y a le plus de choses à voir. Et au sud de Montmartre, il y a la ville de Paris. Alors, pollution lumineuse, il n'y en a pas trop à l'époque. Mais par contre, il y a énormément de fumée. Ben oui. Alors, ben non, il faut trouver un endroit qui va être situé, lui, au sud de Paris. Donc, on trouve un terrain et on va bâtir cet observatoire. J'ai une image de l'époque. Parce qu'on est à la radio, mais je vais vous la décrire. On voit un bâtiment, le même bâtiment tel qu'il est de nos jours. Hein. Et tout autour, il y a un paysage qui s'étend assez loin. Il n'y a aucune habitation, sauf trois moulins à vent qui sont assez distants les uns des autres. C'est sûr que le paysage a un peu changé maintenant, parce que pour aller à l'Observatoire de Paris, vous prenez le métro jusqu'à Denfert-Rochereau, ensuite, vous descendez le boulevard Arago, 300 mètres sur la gauche, vous avez l'Observatoire de Paris. Et juste avant, vous avez un bâtiment des années 50 qui est l'IAP, l'Institut d'Astrophysique de Paris, qui sont mitoyens. L'architecte, c'est Claude Perrault. Claude Perrault, c'est le frère de Charles Perrault, vous savez, celui qui a écrit les contes de Perrault. Charles Perrault va construire un bâtiment imposant, hein, 2 étages, avec des fenêtres très hautes, des plafonds très hauts, un escalier monumental. Alors, c'est un carré, imaginez, qui fait à peu près 35 mètres de côté. Il est disposé de telle façon que la ligne qui passe par le milieu des façades nord et sud soit pile poil dans l'axe nord-sud de la Terre. Cette ligne, c'est ce qu'on appelle la méridienne. Elle est matérialisée par une bande de cuivre qui est installée sur le plancher de l'étage supérieur. Ça sera officiellement le méridien de Paris qui sera utilisé comme origine des longitudes pendant un certain temps. Bon, les Anglais vont faire pareil avec l'observatoire du Greenwich quelques années plus tard. De chaque côté du bâtiment principal, il y a 2 tours octogonales qui sont disposées de telle façon qu'un de leurs pans donne la direction du lever du soleil au solstice d'hiver, 21 décembre, et l'autre pan, le coucher du soleil le même jour. Et puis, il y a la même chose pour 2 autres pans qui correspondent au solstice d'été, 21 juin. Puis il y a 2 autres pans qui donnent la direction du lever du soleil et de son coucher aux équinoxes du 21 mars et du 21 septembre. Dans l'ensemble, c'est un bâtiment qui apparaît comme assez austère. Bon, il s'apparente un peu aux fortifications que construit Vauban. D'ailleurs, on l'appelle la citadelle des sciences. Citadelle à partir de laquelle le ciel doit être conquis pour la gloire du roi soleil. Louis XIV et Colbert réussissent à débaucher, après Huygens, un autre astronome déjà célèbre en Italie, Giovanni Domenico Cassini, Jean-Dominique Cassini, qui arrive pour être directeur de l'observatoire, c'est en 1669. D'emblée, Cassini trouve que le bâtiment est très mal commode, opinion d'ailleurs qui sera partagée avec tous ses successeurs. Jean-Dominique Cassini, c'est le premier d'une dynastie de 4 astronomes qui seront tous directeurs de l'observatoire de père en fils, et ça jusqu'à la Révolution. Cassini Ier découvre 4 satellites de Saturne et un sillon noir dans les anneaux de Saturne. On appelle ça maintenant la division Cassini. Il observe aussi beaucoup les éclipses des satellites de Jupiter. On s'en sert à l'époque pour calculer les longitudes. Et ce faisant, il va comprendre que la lumière a une vitesse finie. Une autre activité qui va prendre de plus en plus d'importance à l'observatoire, c'est la géodésie, la mesure des positions géographiques. Tout ça, c'est pour cartographier la France. Et oui, oui, les amis, parce qu'à l'époque, il n'y a aucune carte, aucune carte. On mesure les distances en journée de cheval. On sait que Pau-Bayonne, c'est 2 jours de cheval, Toulouse, c'est un peu plus loin, donc c'est 3 jours et demi. Enfin, vous voyez, bonjour la précision. On va utiliser, pour faire cette cartographie, une méthode scientifique qui a été mise au point par l'abbé Picard, en 1660. Ça s'appelle la triangulation. Alors, j'explique. On prend 3 points ABC qui forment un triangle. On mesure précisément le segment AB et les angles formés par le segment AB et le point C. On peut alors calculer les distances AC et BC. Et en faisant comme ça de proche en proche avec des triangles contigus, on arrive, en suivant à peu près le méridien de Paris, on arrive à mesurer la distance entre Dunkerque et Perpignan. Ça, c'est Cassini III et l'abbé Lacueil qui vont faire ce travail avec l'aide d'autres géographes de leur équipe. On va faire la même chose pour des lignes perpendiculaires à la méridienne. On va faire, par exemple, Brest-Strasbourg. On va faire Bayonne-Antibes. Puis on va faire ça aussi sur les côtes et sur les frontières. Tout ça, ça aboutit à une première carte qui est publiée en 1744, à partir de laquelle on va pouvoir faire des cartes régionales, beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée. Alors ça, ça va mobiliser énormément de temps, d'argent et de moyens humains. Donc l'œuvre des Cassini, cette grande carte de France, va se terminer en 1818. Et si on compare les routes et les chemins de la carte avec les photosatellites actuels, on est surpris de la précision et de l'exactitude du dessin. Bon, cette carte, figurez-vous qu'on s'en sert encore aujourd'hui. Il y a des archéologues, des historiens, des géographes qui l'utilisent, et puis aussi tous ceux qui veulent voir l'évolution des paysages. Bon, pendant que l'Observatoire consacre essentiellement ses ressources à la carte de France, l'astronomie continue quand même, on continue à observer les phénomènes célestes, notamment les transits de Vénus, 1761-1769. Et puis c'est la Révolution. Cassini-IV démissionne en 1793. 1795, la Convention crée le Bureau des Longitudes qui va chapeauter l'Observatoire de Paris. Dans le comité de direction, il y a bien sûr tous les astronomes célèbres français. C'est Jérôme Lalande qui sera le directeur de l'Observatoire de 1795 à 1800. Puis ensuite, ce sera Méchain et puis Delambre. Ce sont deux autres figures de l'astronomie de l'époque. Le poste de directeur de l'Observatoire de Paris est très important parce que c'est lui qui décide de l'achat et de la répartition des instruments de la nation dans les différents observatoires français. En fait, le directeur de l'Observatoire de Paris, c'est le patron de l'astronomie française. Oh, l'activité géodésique va reprendre de plus belle parce qu'on est en pleine création du système métrique. Le mètre étant la 10 000e partie du quart de méridien, il est nécessaire d'avoir une bonne mesure du méridien. Alors, on va refaire les mesures d'un méridien depuis Dunkerque. Est-ce qu'aussi on va aller carrément jusqu'à Barcelone, avec pas mal de difficultés liées aux conditions de l'époque. C'est Delambre qui fait la partie nord et Méchain qui fait la partie sud. Méchain attrape la malaria en Catalogne et il en meurt en 1804. Il est remplacé par Jean-Baptiste Biot, qui emmène avec lui un assistant, c'est un jeune polytechnicien, qui a le gros avantage de parler catalan. Ben oui, parce qu'il est de Perpignan. C'est François Arago. Biot doit rentrer à Paris avant la fin des travaux et Arago continue de faire le job tout seul. Oui, mais, voilà qu'éclate une guerre entre la France et l'Espagne. Arago est fait prisonnier. Et alors il s'ensuit des tribulations invraisemblables où il va s'évader plusieurs fois. Il va se retrouver deux fois en Algérie, puis finit par arriver à Marseille avec tous ses instruments et avec toutes ses mesures. Il arrive à Paris. Il est accueilli en héros. Il est d'emblée élu à l'Académie des sciences. Il a 23 ans. François Arago va vite devenir un personnage incontournable de l'Académie des sciences d'abord et de l'Observatoire de Paris ensuite. Bon, scientifique, lui, il touche à tout. L'électricité, magnétisme, acoustique, optique. Il étudie la polarisation de la lumière et la réfraction atmosphérique. Astronome, il mesure avec précision les diamètres des planètes. Et il va participer à lancer les débuts de l'astrophysique. En étudiant la lumière émise par le Soleil et les étoiles, il comprend que ce sont des boules de gaz incandescents. On ne connaissait pas avant ce que c'était. Il va donner un cours d'astronomie qui est suivi par plus de 800 personnes. C'est énorme pour l'époque. À l'observatoire, il devient directeur des observations en 1834 et directeur en 1843. Lui, il comprend très vite l'intérêt de la photographie qui débute. Il comprend l'intérêt de la photographie pour l'astronomie. Il va encourager de jeunes chercheurs à utiliser cette technique. Il va faire aménager, mais malheureusement, il n'en verra pas l'aboutissement, sur la tour octogonale est de l'observatoire, une coupole qui va abriter une lunette de 38 cm de diamètre et de 9 mètres de long. C'est la plus grande pour l'époque. Cette lunette, c'est un instrument quand même de taille respectable et de poids aussi, on peut la manipuler en la tenant simplement entre le pouce et l'index. Croyez-moi, j'ai essayé, on ne fait aucun effort. Arago va aussi s'attacher à faire émerger de jeunes talents, à promouvoir tous ces gens comme Ampère, Foucault, Fizeau, Le Verrier. À partir de la Révolution de 1830, il va se lancer dans la politique, Arago. Il est d'abord député des Pyrénées-Orientales, puis de Paris. Il devient ministre de la Marine et de la Guerre. Et puis, c'est lui qui va signer, malgré les oppositions un peu violentes, il va signer le décret qui abolise l'esclavage dans les colonies françaises en 1848. Il va aussi présider le comité exécutif pendant un mois et demi, en 1848. Alors ça, c'est une fonction équivalente à celle de chef d'État. Il va quitter la vie politique après le coup d'État de Napoléon III en 1851. Ensuite, malade, il va mourir en 1853. Arago, c'est un personnage. un grand savant, un astronome, un grand républicain aussi. Dans la seconde partie de l'émission, nous continuerons de développer l'histoire de l'observatoire qui se confond souvent avec celle des directeurs de cet observatoire.
Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi. Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi. Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi. Souviens-toi, était-ce mai, novembre ici ou là, était-ce un lundi? Je ne me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, nous l'avons franchi. Reviens-moi de tes voyages si loin, reviens-moi, tout s'ajoute à ma vie. J'ai besoin de nos chemins qui se croisent, quand le temps nous rassemble ensemble, tout est plus joli. Reviens-moi de tes voyages si loin, reviens-moi, tout s'ajoute à ma vie. J'ai besoin de nos chemins qui se croisent, quand le temps nous rassemble ensemble, tout est plus joli. Reviens-moi de tes voyages si loin, reviens-moi, tout s'ajoute à ma vie. J'ai besoin de nos chemins qui se croisent, quand le temps nous rassemble ensemble, tout est plus joli. Reviens-moi de tes voyages si loin, reviens-moi, tout s'ajoute à ma vie.
Si vous nous rejoignez sur 95.10, les amis, bienvenue, vous avez bien raison. Aujourd'hui, notre émission d'astronomie rend hommage à l'Observatoire de Paris qui a fêté cette année ses 350 ans. Dans la première partie de l'émission, nous étions arrivés jusqu'en 1853 à la mort de son directeur François Arago. Le successeur d'Arago, c'est un autre polytechnicien, c'est Urbain Le Verrier. Le Verrier, il a acquis une grande célébrité dans le monde de l'astronomie grâce à la découverte de Neptune. En effet, il avait prévu, par le calcul, la position que devait occuper une planète inconnue qui perturbait le mouvement d'Uranus. Il envoie cette prévision à un astronome allemand, Johann Jall, qui découvre cette planète qu'on appellera plus tard Neptune, qui la découvre simplement après une heure de recherche en observant à l'endroit que lui avait indiqué Le Verrier. Triomphe de la mécanique céleste. Le Verrier, dès sa prise de fonction, en 1854, réussit à séparer l'observatoire de la tutelle du bureau des longitudes. Il va s'atteler à complètement le réorganiser. Le réorganiser à sa façon, c'est-à-dire de façon très autoritaire. Oui, parce que le verrier, il est caractériel. Ah oui, oui, il est colérique, il est odieux, il est insupportable. Le personnel fait des pétitions. 60 astronomes démissionnent en bloc. Et du coup, le verrier finit par être relevé de ses fonctions par décret impérial en 1870. Il est remplacé par son pire ennemi, un nommé Delaunay, qui va mourir accidentellement 2 ans plus tard. Et faute d'autres candidats, eh bien, le verrier est rappelé à la direction de l'observatoire, un poste qu'il va occuper jusqu'à son décès, en 1877. Sous son règne, d'abord la cartographie va être progressivement abandonnée, et l'activité va se recentrer d'abord sur l'astrométrie, c'est la mesure des positions précises des étoiles dans le ciel, et ensuite sur la mécanique céleste, c'est le dada de Le Verrier, ça. Le Verrier qui découvre une anomalie dans le mouvement de Mercure. Et du coup, il veut rééditer ce qui s'est passé pour Neptune, en invoquant une planète inconnue qui serait située entre Mercure et le Soleil et qui perturberait le mouvement de Mercure. Planète qu'il va appeler Vulcain. Alors tout le monde cherche le Vulcain, personne ne la trouve. Oui, parce que l'anomalie du périhélie de Mercure s'explique parfaitement par la théorie de la relativité générale qui va être développée par Einstein quelques années plus tard. En 1855, il y a un événement inattendu qui va déclencher une nouvelle activité à l'observatoire. Une partie de la flotte française est détruite par une tempête pendant la guerre de Crimée. Napoléon III demande à Le Verrier si on aurait pu prévoir cette tempête. Réponse positive, et Le Verrier organise un service où les observations émanant de 24 stations météo sont envoyées à l'observatoire par le télégraphe à l'époque, qui en fait la synthèse et qui, en 1863, va publier les premières cartes météo, des cartes qui donnent des prévisions à 24 heures. Bon, ces cartes sont essentiellement destinées à la marine. Mais ça, ce petit service, eh bien, c'est l'ancêtre de Météo France, c'est le début de la météo moderne. Ensuite, c'est un marin, l'amiral Mouchez, qui succède à Le Verrier en 1877. Alors lui, il va lancer un projet, un très grand projet. C'est la carte du ciel. La carte du ciel qui consiste à photographier tout le ciel et à répertorier l'ensemble des étoiles. Pour ça, il y a 18 observatoires, français et étrangers, qui sont impliqués dans ce projet. Ils vont utiliser tous le même matériel. C'est un travail très fastidieux qui conduit à la prise de vue de 22 000 plaques photographiques, où il faut mesurer les coordonnées de chaque étoile. Il y en a 8 000 à 10 000 par plaque. C'est un travail qui a été très 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 largement sous-estimé au départ et qui sera finalement jamais terminé. On décide finalement d'arrêter cette activité en 1970. Parce que maintenant, les travaux d'astrométrie comme ça, la carte du ciel, c'est le télescope en orbite Gaïa qui s'en charge. Mais les plaques photographiques, maintenant, connaissent un regain d'intérêt parce qu'en les comparant avec les résultats de Gaïa, on peut en déduire le déplacement des étoiles sur une période très longue. D'autres directeurs vont se succéder et de nouvelles activités vont être mises en place au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Un peu avant la Première Guerre, avec Benjamin Bayot, c'est la distribution de l'heure qui va prendre de l'importance avec la création du Bureau international de l'heure. C'est une institution dont le siège sera à l'Observatoire de Paris et qui va perdurer jusqu'en 1987. Son rôle, c'est de coordonner les mesures du temps effectuées dans les différents observatoires pour déterminer ce qu'on appelle le temps universel, le TU. Le TU qui sera ensuite transmis partout grâce à l'invention de la TSF, la télégraphie sans fil. C'est l'ancêtre de nos petits postes de radio. Hein. Et puis grâce aussi à l'émetteur qui va être installé au sommet de la tour Eiffel, et ça va permettre de sauver la tour Eiffel de la destruction, ça. Création de l'horloge parlante en 1933. Et puis on découvre, grâce à des horloges ultra précises, des irrégularités dans la rotation de la Terre. Et ça, ça va conduire à une nouvelle définition de l'unité de temps. Une date importante, 1926, l'observatoire de Meudon, qui est spécialisé dans la physique solaire, va être attaché à l'Observatoire de Paris. En 1945, André Dangeon prend la direction de l'Observatoire. Et jusqu'à la fin des années 60, les moyens de la recherche scientifique vont être assez importants. Les effectifs de l'Observatoire, en conséquence, vont passer de 40 personnes en 1945 à 630 en 1971. 1953. L'Observatoire se lance dans la radioastronomie avec Yves Rocard, le père de Michel Rocard. C'est la création, alors c'est en Sologne, au beau milieu d'une forêt, loin des parasites des villes, la création de l'Observatoire de radioastronomie de Nancy. Alors là, il y a des instruments comme le radiohéliographe, qui est dédié à l'observation du Soleil, le réseau décamétrique, qui concerne l'observation de Jupiter, et puis également un grand radiotélescope avec un miroir plan mobile qui est grand comme deux terrains de foot et qui pèse 400 tonnes. Aujourd'hui, l'Observatoire de Paris, c'est 240 chercheurs, 150 doctorants, ainsi que 400 agents des services techniques et administratifs. Les activités de l'Observatoire, ça couvre tous les domaines de l'astronomie. Ça va des théories de l'univers, de la cosmologie. Il y a aussi des chercheurs et des ingénieurs qui conçoivent et réalisent des instruments pour les grands télescopes terrestres et pour les sondes spatiales. Ils participent aussi, ils organisent même des campagnes d'observation. Ils vont mettre aussi en place le traitement, l'analyse, l'interprétation des données qu'on obtient. Et tout ça, c'est pratiquement toujours maintenant dans le cadre de coopération européenne, voire mondiale, comme pour les ondes gravitationnelles. Il y a aussi à l'Observatoire une activité d'enseignement supérieur, avec ça va du master au doctorat. Et puis il y a une direction de la communication qui est chargée, entre autres, de diffuser le savoir-faire auprès du grand public. Et l'Observatoire de Paris, en termes d'importance, c'est quand même le second au monde. En conclusion, je dirais, les amis, qu'en 350 ans d'existence, l'Observatoire a toujours su évoluer et s'adapter pour coller au mieux au progrès de l'astronomie. Voilà, notre émission se termine. N'oubliez pas les Géminides, les étoiles filantes dans la nuit du 13 au 14 décembre, et puis, ah oui, dans la nuit du 24 au 25 décembre, hein, n'oubliez pas celui que vous attendez tous, les amis. À l'année prochaine.
La découverte du ciel, une émission proposée et présentée par Alain sur la Voix du Béarn 95.10.